Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles, Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage, pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changés. Venez écouter comment. Un petit tour et puis changeons. Costa Rica, deuxième partie. De notre côté, on s'était organisé pour rendre notre véhicule de location à l'aéroport le jour où mes parents arrivent. Et donc, c'est ce que l'on fait et on se poste à la sortie, aux arrivées, pour les attendre. À partir de là, il y a une longue attente assez frustrante qui dure presque 2 heures. On est à la sortie, des portes automatiques qui s'ouvrent avec les gens qui arrivent. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un avion qui débarque, donc un ensemble de passagers, on regarde s'ils sont là, mais évidemment, entre le temps de formalité à l'immigration, qui peut être très long, selon que les avions sont très remplis, et ensuite le temps d'attente pour récupérer les bagages, on n'a aucune idée du moment où ils vont sortir. Moi, je sais que je suis tellement excitée qu'à un moment, de loin, je vois des gens arriver, je vois pas très bien, je suis quasi sûre que c'est eux. Et puis quand je dis aux enfants, venez, on se rapproche, on va les voir. Et là, quand on s'approche, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus vieux que ça. Donc mes enfants me disent, bouh, tu reconnais même pas tes parents. Mais en fait, je pense que j'étais tellement impatiente de les voir que je les ai vus, quoi. Mais c'était pas eux. Ils finissent par sortir et là c'est la grande joie, les filles leur font des gros câlins, eux ils sont trop heureux, nous on est très contents de les retrouver et assez excités de ce qui va se passer, ce qu'on va vivre ensemble pour les 2 prochaines semaines. Moi je m'apprête à vivre quelque chose d'assez particulier parce que je fais partie d'une famille de 5 enfants, donc j'ai 3 frères et une sœur adoptive et en fait avec mes 3 frères on est nés dans un premier lot à 20 mois d'écart. Et on n'a pas voyagé avec mes parents en dehors de nos voyages pour aller en Angleterre voir mes grands-parents ou en Italie pour voir la sœur de ma mère et son mari et mes cousins. Et c'est la toute première fois que je voyage de manière lointaine avec mes parents, ce qu'ils ont déjà fait avec mon dernier petit frère. Et j'ai confiance dans le fait que ça va bien se passer et en même temps ça m'intrigue un peu. Je me demande comment ça va se passer quand même. Bon, l'avantage, c'est qu'on s'entend très bien. Mes parents sont des gens faciles. Même Daniel, mon mari, le dit. Et puis, ce sont des gens qui s'adaptent très facilement. Donc, je pense que je tiens ça d'eux également. Donc, ça va le faire. Ce qui est pas mal en rupture avec notre façon de voyager ces derniers mois, c'est que ce voyage au Costa Rica avec mes parents, il est organisé. C'est-à-dire que quand on a pris contact les uns avec les autres en fin d'année, mes parents ont émis le souhait de pouvoir faire appel à une agence pour pouvoir bien cadrer l'organisation du voyage et pouvoir en profiter tous autant les uns que les autres. C'est pas quelque chose qui est dans nos habitudes avec Daniel, mais c'est vrai qu'en janvier de cette année, on avait la tête ailleurs, on était en Australie, puis on est parti en camping-car, on n'avait pas trop le temps de s'occuper de ça, et puis on avait nos prochaines étapes à organiser également. Et donc c'est ce qu'on a fait, on s'est appuyé sur les services d'une agence qui nous a concocté un programme sur 2 semaines avec l'hébergement et puis la location d'un 4x4. D'ailleurs le rythme est lancé tout de suite parce qu'une fois qu'on a récupéré mes parents à l'aéroport, on retrouve notre chauffeur qui nous emmène à l'hôtel. On arrive pile pour le dîner, donc on se fait un dîner hyper sympa de retrouvailles autour de la piscine de l'hôtel, mais bon... On refait direct les valises parce que le lendemain, à 6h30, c'est départ en navette. Au petit matin, on retrouve notre chauffeur. Il est hyper jovial, hyper sympa et surtout, il me parle un très bon anglais. On monte dans la navette et puis on est accompagné d'une touriste allemande qui doit avoir 22, 23 ans, qui est fort sympathique et qui vient avec nous. Donc à ce stade-là, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire avec nous, mais en tout cas, elle va jusqu'à Tortuguero comme nous. La voiture démarre, c'est parti, et puis au bout de 20 minutes, on a eu un petit peu de bouchon. Le chauffeur, il a plusieurs coups de fil, puis on voit qu'il s'agace un peu, c'est tout en espagnol, alors qu'il parle très vite et nous, on ne comprend pas tout ce qu'il dit. Et puis il nous dit, bon, on va récupérer votre guide. Et nous, ce qu'on savait, parce qu'on avait vu la coordinatrice de l'agence la veille au soir, qui était venue nous présenter le programme et répondre à nos questions, c'est que pour le parc de Tortuguero, on est accompagné obligatoirement d'un guide qui est mandaté par l'État, un guide officiel. Et donc, il n'y a pas le choix, c'est au petit bonheur la chance. Là, le chauffeur, il maugréait. On voit qu'il n'est pas de bonne humeur, il a changé d'humeur. Et on se retrouve dans les bouchons et ensuite dans un quartier résidentiel où on récupère ce jeune, un jeune qui est sur le trottoir avec son sac à dos, qui monte dans la navette, il dit bonjour, il s'assied et puis rien de plus. Il y a une atmosphère un peu étrange parce qu'en fait on se demande qui est ce garçon. On ne sait pas si c'est le guide qui va nous accompagner pendant 3 jours. On se dit que c'est peut-être un guide qu'on emmène sur place et puis un peu plus loin dans le trajet, on comprend qu'il y avait un autre guide qui devait nous accompagner, que finalement il y a eu un changement, enfin bref. Un changement de programme, le chauffeur n'était pas au courant et il a été prévenu au pied levé. Là, c'est parti pour 3 heures de route. Alors, c'est assez montagneux, on passe tout un tas de reliefs. C'est pas une route qui va tout droit. Au bout d'un moment, Violette, elle se sent pas bien, elle vomit même. On arrive à arrêter le van quand il faut. Mais bon, c'est vrai, quand on arrive au point d'embarcadère pour prendre un bateau, elle n'est pas très en forme. Entre-temps, on en a appris beaucoup plus sur le Costa Rica par le chauffeur qui nous a expliqué énormément de choses que par le jeune guide qui ne semble pas très intéressé, ne s'est toujours pas présenté, mais on comprendra un peu plus tard que ce sera notre guide pendant 3 jours. Et puis, Violette, on finit par lui donner un comprimé que propose la jeune Allemande, qui est un comprimé contre le mal des transports. Elle-même, elle est assez sujette à ça et elle dit ça va un petit peu l'endormir, lui mettre dans un état de détente. Mais vu les heures de bateau qui nous attendent, ça pourrait lui faire du bien. Donc nous, on lui donne, sans trop se poser de questions, et puis on finit le trajet en voiture. Là, à l'embarcadère, ça nous fait un peu drôle parce que ben, y a forcément beaucoup de touristes qui vont sur le parc national de Tortuguero. Et nous, on embarque sur un bateau à moteur où on est avec un autre groupe. Enfin, il y a deux bateaux et nous, on est sur un des bateaux mélangé à un autre groupe de touristes qui sont des personnes âgées. Il n'y a pas d'enfants. Et ouais, ça nous fait un peu drôle, quoi. C'est une ambiance, je dirais, un petit peu beauf, quoi. Sur le canot. On se sent un petit peu noyé dans la masse aussi parce qu'ils sont 50 et nous on est 8. Et on se dit mince, est-ce qu'on va avoir des moments un petit peu intimistes au sein de notre groupe, quoi? On n'a pas trop envie de tout faire avec eux. Alors ça commence à être épique dès le départ parce que comme on est, on va dire, les plus jeunes, les plus vaillants, on nous fait descendre du bateau parce qu'on est en saison, plutôt fin de saison sèche et l'eau est pas assez remontée et donc il y a des endroits où le bateau il va pas pouvoir passer, donc on nous fait descendre nous pour marcher à peu près 10 minutes en plein cagnard avant de bah, pour avancer sur le bras de la rivière et retrouver le bateau un peu plus loin pour qu'il puisse passer quelques bras de rivière qui sont peu remplis. Donc là, on regrimpe sur le bateau. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les bateaux, il y a celui qui pilote, qui est à l'arrière, qui est au niveau du moteur et qui barre. Et puis à l'avant, il y a un autre jeune homme avec une grande perche. Et ce jeune homme-là, il est là pour s'écarter des bords, aider dans les virages. Et parfois même, quand le bateau, il est ensablé et qu'il ne repart pas, il est là pour pousser. Donc il se met dans l'eau jusqu'à la taille. Et là, c'est stress immédiat parce qu'en fait au bout de 5 minutes de pilotage, et ben on voit les jeunes sauter dans l'eau, pousser le bateau, et là qu'est-ce qu'on aperçoit sur le bord? Des crocodiles. Et donc à la fois c'est l'éblouissement de se dire quoi, il y a des crocodiles qui sont là à portée de pied. Nous on a quand même enlevé les tongs pour entrer dans le bateau, on mettait un peu les pieds dans l'eau quoi. Et on a ces jeunes qui ont de l'eau parfois jusqu'au buste, qui poussent le bateau et il y a les crocos dans l'eau. Donc eux rigolent, ils jouent un peu le jeu avec ces crocodiles comme s'ils allaient se faire croquer. Et en fait, ils nous expliquent que ces crocodiles-là, ils ont plus peur des humains qu'autre chose. Mais bon, ça nous met direct dans l'ambiance.
Oh yeah.
Ah ok, ok, continue.
Hein?
Bon, le trajet, il dure 3 heures en bateau. Et c'est vrai que c'est assez pénible parce que on peut faire rien d'autre que de regarder ce qui se passe dehors. Il y a le bruit du moteur qui fait un petit peu mal à la tête. On peut pas se parler, c'est pas possible. Et puis, c'est long, quoi. On est assis sur des chaises qui sont pas très confortables. Donc, au bout d'un moment, on est vraiment pressé d'arriver. Sachant qu'entre-temps, Violette, elle finit par s'endormir. Mais je me rends compte qu'elle est juste complètement shootée. Et en fait, le médicament qu'on lui a donné, c'est sûr, ça a aidé, hein, mais elle est complètement décalquée. Donc, je lui fais un petit lit entre deux sièges avec les gilets de sauvetage pour que ça soit confortable. Mais elle, elle verra pas la fin du trajet. D'ailleurs, son réveil à l'arrivée, il est un peu turbulent. Elle est de mauvaise humeur. Elle veut absolument se recoucher. Donc, on finit par la sortir du bateau. Bon, là, on se dit que c'est bien la dernière fois qu'on lui donne ce genre de cachet pour le transport. Ça lui réussit pas du tout. Ce qui est magique dans cet hôtel dans lequel on s'installe pour 2 nuits, c'est qu'on a vraiment le sentiment d'être à l'autre bout du monde. C'est-à-dire qu'on arrive par des canaux de rivière, des bras de rivière, en bateau. Et de l'autre côté, il y a l'océan Pacifique, dans lequel on ne peut pas se baigner parce que les courants sont très forts et puis il peut y avoir des crocodiles qui, là, sont très dangereux. Et c'est vrai que c'est assez fou, on a ce sentiment d'être à l'autre bout du monde. Et l'autre élément, c'est que où qu'on soit aux environs de l'hôtel, que ce soit dans les jardins ou même au restaurant, il suffit de s'asseoir, d'observer et on voit plein de choses. La nature, elle est vraiment omniprésente. Il y a tout un tas d'oiseaux, les aras, les toucans. Sur le trajet en bateau, le long de la rivière, on voit tout un tas de hérons, de martins pêcheurs, des lézards partout. Autour de l'hôtel, on entend les singes très régulièrement. D'ailleurs, en se levant le matin de bonne heure ou en allant les observer à la tombée de la nuit, on voit toutes les familles de singes qui sont là ensemble, qui sautent de branche en branche. On les entend aussi beaucoup, les singes hurleurs, les capucins. On fait vraiment communion quoi, avec cette nature qui est à portée de main. On fait 2 excursions, l'une en bateau et l'une à pied, avec notre guide qui ne s'est toujours pas amélioré. N'empêche qu'il nous permet de voir et de connaître, faire connaissance avec des espèces qu'on ne connaissait pas, notamment à pied en forêt avec tout un tas de grenouilles, notamment la grenouille qui s'appelait Blue Jeans. C'est une petite grenouille qui est rouge mais qui a les pattes bleues, les jambes bleues. Et donc ça fait comme si elle portait un jean. Et puis, il y a aussi la grenouille qui est un emblème du Costa Rica, qui est toute verte, qui dort la journée et qui vit la nuit. Elle a des yeux rouges et elle se confond avec les feuilles tropicales. Et c'est c'est fascinant de voir aussi des araignées, des serpents. Enfin, pour nous, c'est vraiment une découverte, tout ça. Notre seul regret, c'est de ne pas avoir de tortues. Et en même temps, c'est pas du tout la saison, parce qu'en saison, on peut aller voir les tortues pondre leurs œufs sur la plage, face à l'océan. Bon, là, c'est pas possible, mais c'est pas grave. On est quand même très content d'avoir vécu cette expérience d'immersion dans cette nature proche du fleuve. On fait une petite visite du village de Tortuguero, qui porte le nom du parc national. Et pour s'y rendre, il faut prendre un bateau, évidemment. Et bah, ça nous permet de voir un peu comment vivent les gens dans ces endroits assez reculés. Il y a une petite école, une rue principale, et puis ensuite on voit bien que ben, tout le monde se connaît, c'est un petit village qui vit en communauté. Et une majorité des habitants de ce village travaillent dans le tourisme, dans les lodges environnants et en tant que chauffeur de bateau ou de guide. J'ai une habitude, voire c'est un espèce de réflexe qui est inné. Quand on est dans des endroits comme ça où il y a beaucoup de personnel qui travaille, c'est de toujours bah, saluer tout le monde, dire bonjour, faire des sourires. Enfin, j'essaye d'établir un lien, quelle que soit, on va dire, la hiérarchie de l'endroit où on se trouve et des personnels qui sont là. Et c'est vrai que le personnel du restaurant est très sympa. Les serveuses sont gentilles comme tout. Toujours à aller nous chercher des choses quand on a besoin d'autre chose, par exemple au petit déjeuner. Et notamment, il y en a une à qui j'ai demandé si elle peut nous organiser un petit gâteau surprise pour le lendemain, pour l'anniversaire de June. Et elle est dans la confidence, elle est trop contente. Et il y a sa sœur qui est là dans la boucle aussi, qui fait le service également avec elle. Donc on se met d'accord et on se dit qu'on se reconfirme cela pour le lendemain soir. Mais en fait, le lendemain, ça se passe pas du tout comme prévu. À midi, on est en train de déjeuner. On a fait une longue sortie le matin en bateau pour aller observer les oiseaux et les lézards. Et c'est la fin du déjeuner. Et il y a justement une des serveuses qui est en train de remplir d'alcool des espèces de grosses bougies qui font office de chauffe-plat sous les plats du buffet qui doivent être maintenus au chaud. Et en fait, la bouteille lui échappe. Je ne sais pas ce qui se passe. Et d'un coup, il y a une explosion. Et il y a le feu qui prend et elle commence à prendre feu. Donc il y a la grosse explosion, moi je vois le feu, je dis à mes enfants, enfin à tout le monde de sortir de la terrasse. Elle crie, les gens arrivent de la cuisine, Daniel il commence à s'approcher d'elle, mais il y a la fille de la cuisine, bah, sa sœur qui l'emmène, qui va faire quelque chose dans la cuisine, il y a le feu qui continue Il n'est pas éteint, quoi. Il est là sur le plan de travail. Et puis Daniel, je sais pas, il met un torchon, enfin, il éteint le reste de flamme. Et puis voilà, on est complètement sous le choc et hébété. Moi, je sens que j'ai le cœur qui bat très fort parce que j'ai eu peur aussi pour nous, pour nos enfants. Je me suis dit, ça aurait pu peut-être exploser. Il y aurait pu avoir je sais pas, une bonbonne de gaz pas loin. Et en même temps, j'entends la fille qui crie, et je me dis, oh là là, elle doit avoir terriblement mal, et puis on est au milieu de nulle part, quoi. C'est à 3 heures de la plus grosse ville. Au bout de 10 minutes, elle sort de la cuisine, elle est pliée en deux, et puis elle est emmenée par sa sœur et quelqu'un d'autre, ils partent, et on entend le bateau partir, donc on se dit ce qu'il emmène dans un centre médical. Et puis, moi, j'apprendrai le lendemain en discutant avec sa sœur que je reverrai pendant le service. J'ai demandé des nouvelles jusqu'au moment du départ. Et en fait, elle a été d'abord transférée dans le centre médical de Tortuguero, qui l'a envoyée dans un autre centre médical à 1 heure de bateau. Et finalement, elle a fini à l'hôpital de San José dans un service spécialisé pour y être au moins un mois et demi. Et elle a une faible brûlure au visage, mais apparemment le torse qui est pas mal brûlé. Donc, ouais, moi ça me fait beaucoup de peine et je suis peinée et j'ai mal pour cette jeune fille qui a vécu cet accident sur son lieu de travail. La seule qui a échappé à cette scène, c'est June, qui s'était absentée pour aller aux toilettes dans le bungalow. Et quand elle revient, on ne lui raconte pas l'histoire parce qu'on est passé à autre chose. Et puis je pense qu'on est un peu tous choqués, donc on n'a pas envie de revenir sur le sujet. Et le lendemain, eh ben, elle a quand même droit à un super gâteau d'anniversaire bien crémeux, servi par l'équipe qui lui chante la chanson. Et elle souffle ses bougies à l'hôtel après un apéro cocktail sans alcool. Et puis pas mal de petits cadeaux, dont certains ramenés de France par mes parents. Donc June, elle est très contente et très heureuse d'avoir ses 11 ans. Après ces 3 jours d'immersion dans une nature sauvage, mais quand même contraint par ce côté touristique de groupe, c'est-à-dire qu'on n'avait pas la liberté de pouvoir faire des choses par nous-mêmes, sans guide, ou même de pouvoir aller marcher un peu seul, parce que ça peut être dangereux. On est content de faire le chemin inverse et de retourner à notre point de départ et jusqu'à notre location de véhicule, où là, on part pour 10 jours en autonomie dans 2x4x4. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Un petit tour et puis changeons. Ça vous a plu ? Venez écouter l'épisode 26 sur la fin de notre voyage au Costa Rica. À bientôt !